have a dream.
It's one small step for man, one giant leap for mankind.
Une Amérique qui est maintenant multiculturelle, multiforme.
One nation, under God, indivisible, with liberty and justice for all.
Bonsoir à tous, Morgane Guiriec en votre compagnie. Bienvenue dans l'Amérique et vous. Au sommaire, le bras de fer commercial entre Washington et Pékin. L'administration américaine envisage de taxer les importations chinoises à hauteur de 60 milliards de dollars. En face, Pékin menace le porc et les fruits américains. Comment expliquer ces tensions? Quelles pourraient être les conséquences pour les économies des deux puissances? Qui a le plus à perdre? Nous en discutons dans ce numéro de l'Amérique et vous. Pour participer en direct, appelez le 001 202 205 26 33. Pour les auditeurs qui ont laissé leur numéro sur la page Facebook de VOA Afrique, nous commençons dès maintenant à vous appeler. Alors, la Maison Blanche dénonce l'agression économique de Pékin. Pour en débattre ce soir, notre invitée, c'est Irène Finel-Honigman. Vous êtes professeure d'affaires publiques et internationales à Columbia University à New York. Vous avez aussi été au département américain du commerce sous l'administration de Bill Clinton. Merci d'être des nôtres ce soir, Irène.
Merci, monsieur Dan. Merci, madame.
Alors, voyons tout de suite ce que reproche Washington à la Chine. Un des aspects qui froisse les États-Unis, c'est le déficit commercial. Washington estime que les importations venant de Chine sont trop importantes, n'est-ce pas, Irène?
Oui, je crois, vous avez tout à fait raison, mais cependant, ce que je crois est très important, ce qu'il faut absolument comprendre, c'est qu'on est encore dans un stage de manque de clarification sur les objectifs à long, à court terme, et surtout, on ne sait pas tout à fait quelle est, à ce moment, la stratégie et la politique commerciale du président Trump. Car depuis deux semaines, nous avons constamment des commentaires, des tweets, et finalement, des commentaires plus officiels, mais qui sont tout à fait contradictoires. Donc, le problème qui se pose, c'est que donc on est proie à des malentendus. Comme vous savez, les marchés financiers aux États-Unis sont entièrement en désarroi, ayant une immense chute hier de presque 700 points, et puis ont un tout petit peu allé en hausse, et maintenant sont de nouveau en baisse. Donc, à ce moment, le problème qui se pose, c'est est-ce que ces tarifs, qui d'abord ont été déclarés sur presque tous les pays, mais qui immédiatement, dès la déclaration le 8 mars, on a tout de suite fait des exemptions pour le Mexique et le Canada. À ce moment, nous avons l'Union européenne, le Brésil, Corée du Sud, l'Australie, qui en effet viennent de recevoir de même ce qu'on appelle temporary exemptions, donc des exemptions plus ou moins à court terme. Le problème maintenant se pose sur le Japon et sur la Chine. D'une certaine façon, la Chine, on s'attendait, le problème avec le Japon est peut-être une des causes qui, en effet, viennent de créer un choc supplémentaire sur les marchés financiers. Donc, le problème qui se pose, c'est est-ce que ces tarifs qui maintenant seront imposés sur la Chine, quelles seront les répercussions? Aux États-Unis, on y pense plus à quelles seront, en effet, la possibilité des représailles que la Chine pourrait tout de suite prendre, surtout vis-à-vis les produits américains, le porc, le soya, le vin,
alors,
tant
attendez.
D'autres produits.
Donc, on va parler de ce que compte faire Pékin, mais un petit peu plus tard. J'aimerais quand même, pour que nos auditeurs comprennent bien, qu'on parle de ce déficit commercial, puisque le problème ne s'est pas posé seulement sous l'administration Trump. Plusieurs administrations ont essayé de s'attaquer au problème. Aujourd'hui, le président dit que ce déficit commercial avec la Chine est hors de contrôle. Est-ce que vous pouvez nous donner une idée de l'importance de ces importations chinoises vers les États-Unis?
Bon, alors d'abord, je crois qu'il est important de comprendre que ce problème est en effet tout à fait important pour les États-Unis dès la création de l'Organisation mondiale du commerce en 2001. C'est à ce moment, finalement, à la fin de ce qu'appelait des Uruguay Round, les grandes négociations sur les tarifs et l'accord général mondial sur les tarifs et sur le commerce extérieur, c'est à ce moment que finalement finalement, en 80, c'était en 1993 que ceci, en effet, a été réglé, mais c'est qu'en 2001, la Chine a été admise à l'Organisation mondiale du commerce. Et dès ce moment, on pensait qu'il pouvait donc avoir des rapports et des accords beaucoup plus bénéficieux pour, tout, pour et les États-Unis et la Chine. Ceci n'a pas eu lieu. Il y a eu tout un tas de problèmes et très, très souvent, les États-Unis et d'autres pays ont dû porter plainte contre la Chine. Donc ça, c'est un problème à longue durée. Le problème maintenant qui se pose, c'est en dehors des déficits, il y a des problèmes géostratégiques et politiques. Car la réalité est que les États-Unis, à ce moment, ont en effet besoin de la Chine comme allié vis-à-vis la Corée du Sud, vis-à-vis même la Russie, selon les réalités géostratégiques. Donc nous sommes maintenant dans une drôle de situation, je dois dire, où en effet on a des rapports tout à fait adversariaux du point de vue économique commercial et en même temps un besoin d'avoir des relations beaucoup plus proches vis-à-vis le contexte géostratégique.
Oui. Alors, pour revenir hein, sur les sanctions que compte prendre Trump, hein, donc il souhaite que la Chine réduise de 100 milliards de dollars son déficit commercial. Et donc, il a annoncé 60 milliards de dollars de sanctions commerciales contre Pékin. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Il s'agit de taxes, n'est-ce pas?
Oui, c'est ça. En effet, il s'agit donc que tous les produits seront immensément taxés. Et ce qui est intéressant, c'est que la Chine vient juste de déclarer qu'à leur tour, qu'ils vont en effet augmenter jusqu'à 25% les tarifs sur les importations des États-Unis. Mm-hmm. Donc nous sommes maintenant naturellement dans une situation où il y a une genre de rhétorique très surchauffée. Et ce qui est en effet, et ce qui sera en effet les véritables résultats plutôt à terme moyen à long terme, nous ne savons vraiment pas.
Mais quand même...
Car la chose, moi personnellement, que je trouve très très troublante, c'est comme Trump vient de nous faire au bout de 2 semaines tout un tas de déclarations qui sont en effet contradictoires vis-à-vis tant d'autres pays, nous ne savons pas encore au juste est-ce que ce qu'il vient aujourd'hui de déclarer, est-ce que c'est définitif ou non.
Oui, alors, mais quand même, hein, certains observateurs hein, se posent la question et se demandent s'il ne pourrait pas y avoir des impacts négatifs sur l'économie américaine, mais aussi chinoise.
Oui, je crois que le problème avec l'économie américaine, c'est un peu délicat parce que finalement, jusqu'à quel point est-ce que ces genres de tarifs auront vraiment un immense impact? La chose intéressante, lorsqu'on entre dans le sujet des tarifs d'un côté ou de l'autre, mais surtout sur les produits alimentaires, donc ceux-ci pourraient s'attaquer à ce qu'on appelle « the red states », c'est-à-dire les États très, très républicains qui ont en effet les États beaucoup plus agricoles, beaucoup plus, pour ainsi dire, petites et moyennes entreprises du point de vue industriel, les États où il y a en effet l'industrie d'automobile, où là, ils pourraient avoir un impact direct. Et c'est ça qui est un peu étrange, car on penserait que ce sont exactement ce genre d'États, exactement ce genre de citoyens auxquels Trump doit s'adresser.
Donc pour vous, c'est un agenda politique.
Il y a une possibilité d'avoir un impact beaucoup plus fort. Dans les relations avec la Chine, il ne s'agit vraiment pas des services financiers. Il ne s'agit vraiment pas des technologies. Le problème qui se pose aussi avec la Chine, et ça c'est un problème, vous avez tout à fait raison, de longue durée, depuis déjà les années du président Clinton, là il s'agissait du problème en effet de intellectual property, c'est-à-dire produits culturels, produits en effet légaux, c'est-à-dire les droits légaux, surtout les produits culturels, etc.
Alors, j'aimerais quand même qu'on revienne hein, sur ces mesures. Si on taxe les produits chinois, il se pourrait qu'on les retrouve plus chers maintenant sur le marché américain. Ça risque d'impacter les consommateurs.
Oui, c'est ça. Et encore une fois, les produits, en effet, ce ne sont pas nécessairement les produits de haute gamme. Ce sont donc les produits quotidiens.
Oui.
Et si ceci retombe sur les produits quotidiens, sur les produits de maison, les produits, c'est-à-dire de tout le jour, donc à ce moment, ça pourrait encore avoir un impact. Donc ceux qui ne sont pas du tout dans les étapes les plus hautes du point de vue revenu, etc., mais plutôt, dans, encore une fois, les États et les secteurs démographiques auxquels Trump dépend et desquels Trump dépend et auxquels, en effet, on vote journée pour lui.
Alors, parallèlement, la Chine menace de s'en prendre aux produits, aux fruits et aux porcs américains. Donc, on imagine qu'il pourrait s'agir de taxes, pareil?
Oui, alors je crois qu'à ce moment, ils ont en effet déjà déclaré sur le vin, sur le porc, sur les soya, sur tout produit naturellement, aluminium, etc. Donc, ils vont en effet déclarer peut-être jusqu'à 25% de tarifs. Encore une fois, est-ce que ceci est absolument définitif ou est-ce que nous sommes maintenant dans une étape plus ou moins des menaces réciproques?
Oui, c'est ça. Et alors, du coup, ça pourrait quand même avoir un impact sur les consommateurs chinois également?
Alors là, je pense, oui, ça pourrait avoir un impact sur ces consommateurs. La chose intéressante, est-ce que ceci aurait un impact sur plusieurs secteurs démographiques en Chine ou est-ce que plutôt sur les centres urbains, car lorsqu'on parle du vin, lorsqu'on parle de certains produits, sont plutôt produits haut de gamme, vis-à-vis bien sûr le porc qui est essentiel pour la cuisine chinoise. Mm-hmm. Alors je pense qu'il est donc assez difficile à savoir, est-ce que ceci aurait un impact généralisé ou encore une fois limité à certains secteurs.
Okay. Alors la Chine exporte beaucoup vers les États-Unis, mais pourtant le marché américain est censé être protégé plus ou moins, non? Il existe déjà des mesures.
Bon, c'est-à-dire, alors là, jusqu'à un certain point, parce que finalement, les immenses avantages que nous avons gagnés dans les années 90, dans les années jusqu'à 2001, avec l'Organisation mondiale du commerce, c'était en effet d'éliminer au maximum toutes ces barrières commerciales. Donc d'avoir de plus en plus les sentiments vraiment du commerce libre. Le problème a toujours eu lieu vis-à-vis la Chine, car il y a toujours eu des problèmes où on accusait la Chine en effet de ne pas honorer vraiment son mandat au WTO, à l'Organisation mondiale. Mm-hmm. Mais en réalité, pardon, est-ce que ceci aura un immense impact sur le marché américain? Je ne suis pas tout à fait sûre.
Et pourquoi?
Je crois qu'à ce moment, c'est beaucoup plutôt politique. Car il y a en effet ce problème, est-ce qu'on veut vraiment avoir tout d'un coup la Chine comme adversaire? Et ça semble complètement incohérent.
Oui. Alors, en plus, on va laisser un petit peu la question des importations, hein, puisqu'il y a d'autres volets. Vous l'avez mentionné en disant que c'était peut-être pas très important, mais on va quand même y passer. Les États-Unis reprochent à la Chine de voler, de piller la technologie américaine.
Oui.
Comment est-ce que Pékin s'y prend pour s'emparer ainsi de la technologie américaine?
Bon, malheureusement, je ne suis pas spécialiste à ce sujet, mais à ce moment, ça c'est un sujet vraiment où je dois dire les Américains sont vraiment très ciblés là-dessus. L'autre problème maintenant, c'est que ceci entre dans le domaine de sécurité. Et c'est là vraiment où je pense qu'il y a toute une dimension dont il faut en parler. Car un des sujets assez intéressants que Trump a déjà mentionné plusieurs fois vis-à-vis de ces tarifs, c'est le problème de, en effet, national security, la sécurité nationale. Mmh. Il y a de même aux États-Unis des agents spécialisés dans le gouvernement qui observent de façon très 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 proche quels sont non seulement les produits chinois, mais lorsque la Chine veut par exemple avoir une fusion ou une acquisition de n'importe quel secteur industriel ou technologique ou média américain, jusqu'à ce quel point ceci pourrait poser un risque à, encore une fois, ce que les Américains jugent sécurité nationale.
Mmh. Alors, par exemple, je vais quand même donner un petit exemple. Il semblerait que la Chine force les entreprises américaines à transférer les technologies vers les sociétés chinoises pour pouvoir s'implanter dans ce pays. Donc, c'est une condition.
Bon, je crois que je vous donne un exemple tout à fait précis. Par exemple, maintenant, ce sont les téléphones. Ce sont les portables dont lorsqu'on parle d'iPhone, d'Apple, c'est une chose. Lorsqu'on parle en effet de Huawei, de Tencent, d'autres systèmes, etc., WeChat, etc., qui sont essentiels en Chine. Mais maintenant déjà, il y a des restrictions très très fortes sur ces produits car on les juge être en effet un risque.
Mm-hmm. Et d'ailleurs, un risque, et aussi les États-Unis estiment que ce n'est pas très légal. D'ailleurs, ils vont saisir l'Organisation mondiale du commerce.
Exactement.
Concernant. Est-ce que les États-Unis ont une chance de faire, d'obtenir gain de cause devant l'Organisation mondiale du commerce?
Oui, ça je crois absolument, tout à fait. Il est tout à fait possible que ceci, qu'ils puissent absolument porter plainte, car il y a eu d'autres cas, on a fait l'Union européenne de même, à porter plainte contre la Chine, à d'autres sujets, pour violation des mandats vis-à-vis de l'Organisation du commerce international. Ceci probablement aura lieu. Mais le problème à ce moment qui se pose, c'est d'abord que ces tarifs ont eu lieu de façon très très rapide, avec très peu de préparation. Il y a eu tout un tas d'autres facteurs que Trump a mis en jeu, qui n'ont vraiment très peu à faire avec le commerce extérieur, mais plutôt avec différents secteurs et États aux États-Unis. Et donc, nous ne savons vraiment pas encore quel est le résultat final. Et c'est ça pourquoi j'ai mentionné au début jusqu'à quel point il y a un certain sentiment d'incohérence et un sentiment de nervosité vis-à-vis les marchés, car les tarifs auraient dû s'imposer sur tel et tel pays, ce qui n'est plus du tout le cas. D'un jour à l'autre, ça change.
Alors, je vous propose maintenant, et puis ça vous permettra de faire une petite pause, on va laisser la parole à un de nos auditeurs. Il s'agit de Yao Marcelin, il est à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Bonsoir Yao.
Bonsoir Morgane.
Alors, est-ce que vous avez un commentaire ou peut-être une question pour notre invité? On vous écoute.
Bon, j'opterais pour une question. Je voudrais poser la question suivante à votre expert. Est-ce que les relations entre les États-Unis et la Chine au plan commercial, est-ce que cela n'est pas dû à l'investissement massif que les Chinois entreprennent en Afrique? Parce que l'Afrique est le premier partenaire commercial de la Chine. Donc on pense que réellement les Chinois ont beaucoup d'intérêt en Afrique. Et de ce côté-là, les États-Unis ont quand même un droit de regard un peu sur le continent africain, parce que après l'Europe, c'est un peu les États-Unis en matière de partenariat commercial. C'est un combat dans ce sens-là. Est-ce que l'administration Trump essaie de mettre en lumière? Ce combat va au-delà du commerce. Il y a un peu un problème de leadership entre la Chine et les États-Unis.
Ah,
moi,
d'accord.
C'est ce que je vois.
Oui.
Voilà. Posez la question à votre
tête. Alors, Irène, je ne sais pas si vous avez entendu, parce que les lignes étant ce qu'elles sont...
Oui, de me donner un résumé, car malheureusement, la communication était très faible.
Oui, voilà, je sais. Alors, ce que Yao demande, c'est, et vous avez un petit peu parlé de ça, mais vous allez développer pour Yao, est-ce que finalement, derrière ces tensions commerciales, est-ce qu'il ne s'agit pas plutôt d'une question de leadership entre deux puissances qui s'affrontent?
Oui, alors ça, c'est une excellente question. Oui, nous sommes en effet à un moment tout à fait unique où nous revenons dans ce domaine des deux grandes puissances mondiales, mais des grandes puissances mondiales qui, en dehors purement de la politique ou même de l'économie, sont maintenant de même ciblées sur tout ce concept de la globalisation et de la technologie. Donc absolument, il s'agit en effet des puissances, mais malheureusement à ce moment, il serait beaucoup plus important que ces puissances pourraient trouver des sujets où ils peuvent en effet s'accorder et collaborer et travailler ensemble, plutôt que de se créer des structures et en effet avec ces tarifs, et en effet un champ d'adversaires. Et je crois mal, nous sommes maintenant dans un stage. Je pense cependant, et comme j'ai dit à ce moment, nous sommes en pleine rhétorique surchauffée. Lorsque les choses vont un tout petit peu se calmer, il est tout à fait possible qu'il y ait des problèmes et même des conflits du point de vue commerce, mais qu'il y ait malgré tout le besoin de devoir travailler ensemble sur tout un tas de sujets géostratégiques.
Alors, vous parlez de la rhétorique qui s'enflamme,
oui.
Et dans ce contexte tendu, certains observateurs parlent de guerre commerciale. Cette expression correspond-elle, selon vous, à la situation actuelle ?
Bon, je pense que c'est une expression qui est un tout petit peu trop inflammatoire.
Oui.
Car je crois qu'il nie d'un côté et d'un autre, et on commence déjà à avoir des différents commentaires, même vis-à-vis le Japon, etc. Personne ne cherche que ceci devienne vraiment un conflit, ou que ceci devienne vraiment une genre de situation à longue durée, ou qui peut avoir d'autres répercussions. C'est un sujet, en effet, où il y aura des accords, même très profond, mais aussi beaucoup, beaucoup de malentendus jusqu'à que ceci puisse être plus ou moins clarifié. Je crois de même aux États-Unis, les marchés financiers qui ont un grand, qui finalement sont absolument essentiels à la perception de la direction de l'économie, si on commence à voir que ceci choque constamment dans les prochains quelques jours les marchés financiers, je pense que et Washington et en effet tous les autres marchés à travers le monde vont un petit peu se calmer.
Mmh. Alors, en dépit justement de cette rhétorique, finalement, Pékin et Washington, ce sont aussi des partenaires commerciaux.
Pardon ?
Est-ce, finalement, Pékin et Washington, ce sont aussi des partenaires
absolument,
commerciaux.
Voilà. Absolument. Donc, il y a un besoin absolument d'avoir cet équilibre commercial, cet équilibre sur les imports, sur les exports, sur le commerce extérieur. Mmh. Et à ce moment, et les États-Unis et la Chine sont en effet les partenaires mondiaux. Ce sont des partenaires entièrement au niveau global. Et ça, c'est une situation dans un sens tout à fait différente de ce qu'on avait dans les années 80, ce qu'on avait sûrement avant la chute de l'Union soviétique, et ce qu'on avait dans une situation avec une Chine beaucoup plus affaiblie, etc. Le problème maintenant qui se pose, c'est comme la Chine tâche maintenant, en effet, et du point de vue commercial et géostratégique, de s'imposer à travers le monde, je pense qu'à leur tour, la Chine de même ne cherche pas du tout que ceci tombe dans ce domaine pour ainsi dire guerre ou conflit.
Mmh. Allez, on va prendre un autre auditeur. On a au bout du fil Ozana Baingontam. Bonsoir. Bonsoir Ozana, est-ce que vous nous entendez?
Oui, je vous reçois sans souci.
Alors Ozana, est-ce que vous avez un commentaire ou peut-être une question pour notre invité?
Oui, moi je pense que ce qui se passe entre Pékin et Washington est une guerre d'intérêt. Mmh. Une guerre des grands, et surtout, moi, je pense que c'est une concurrence politique. Alors, pour ça, j'ai deux petites questions à poser à votre invité.
D'accord, très vite.
La première question, c'est est-ce qu'il n'y a pas une institution internationale qui peut jouer l'arbitrage entre ces deux puissances? Et en deuxième position, j'aimerais savoir, est-ce que ces bras de fer peuvent avoir une influence négative sur le continent africain?
Ah, alors, on a deux questions. Je ne sais pas si c'est votre si c'est votre domaine, mais il demande en fait est-ce que cette concurrence entre la Chine et l'Afrique pourrait avoir une conséquence sur le continent africain, c'est-à-dire est-ce que cette bataille commerciale économique s'exporte aussi autre part dans d'autres coins de la planète?
Que ces tarifs spécifiques et que ce conflit commercial spécifique aurait un impact direct. Mais cependant, je pense qu'à ce moment, en effet, l'Afrique est dans une situation, je dirais, très complexe et même très délicate vis-à-vis les immenses investissements chinois en Afrique.
Oui.
Et donc, c'est là aussi où nous avons d'autres sujets de concurrence que je pense n'ont pas vraiment été adressés à Washington à ce moment. C'est surtout avec la différence entre le Fonds monétaire et entre cette immense banque d'investissement et développement asiatique où la Chine est dominatrice, et jusqu'à quel point, lorsqu'en effet, il faut avoir l'aide extérieure, l'aide non seulement au commerce, l'aide politique, etc., en Afrique, jusqu'à quel point la Chine commence à prendre une place beaucoup, peut-être beaucoup trop dominante.
Mmh. Et c'est peut-être ça qui ressortait du discours de Rex Tillerson avant son départ pour l'Afrique. Alors, écoutez, je crois que ce seront les mots de la fin. Merci Irène Finel, honnêtement, pour votre analyse. Merci à tous les auditeurs d'avoir participé. Malheureusement, on n'a pu prendre que deux d'entre vous, mais la discussion était chargée. Merci à la production, Cheikh Thiro, à la technique. On avait donc Heydrack et Morgane Guiriec au micro. À bientôt.